Vous écoutez Radio Campus Paris, 24h sur 24 en DAB+, et sur radiocampusparis.org.
J'ai la mémoire qui flanche. Et moi je n'ai pas la mémoire qui flanche, les 18h, vous écoutez Radio Campus Paris. Nous sommes le lundi 23 mai, dans une ambiance survoltée, c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Relève est de retour après une interruption indépendante de notre volonté. J'espère que vous avez aimé les rediffusions. Allez, on se retrouve avec 30 minutes avec un nouveau talent comme avant. Ce soir, on va parler de voyages interstellaires et de sectes meurtrières. Mon invité est écrivain. Bonjour Quentin Bruet-Ferréal.
Bonjour.
Vous publiez votre premier roman, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit, aux éditions Bouquin. Vous y racontez un horrible fait divers avec 39 cadavres retrouvés dans une villa ultra chic. Et là, je me dis, les gens vont partir en courant et ils auront tort. Donc, dans une villa ultra chic de Californie. Et on va vite découvrir, c'est l'histoire du roman, qu'ils appartiennent à une secte. Alors, comme il est écrit sur la couverture de votre livre, roman, on parle beaucoup de non-fiction aujourd'hui. C'est un roman de non-fiction. Comment vous définiriez votre livre ?
Alors, je ne pense pas que ce soit un roman de non-fiction. C'est en effet des faits réels. Ça repose sur une enquête journalistique. Ça repose sur une enquête qui m'a pris des années. Hein. C'est un roman qui m'a pris 7 ans.
Ça repose. Ça, parce que, ouais. Alors, il y a beaucoup de faits que vous avez.
Tout à fait. Il y a des choses nouvelles. C'est une nouvelle perspective sur ce fait réel qui est le plus grand suicide collectif sur le sol américain. Néanmoins, je ne le mettrai pas dans la non-fiction parce que j'ai romancé et parce que moi, je ne crois pas qu'on puisse être à ce point immergé dans les choses, qu'on trouve la vérité. Je trouve qu'il y a une prétention dans la non-fiction qui me paraît un peu folle. Je pense que malheureusement, on ne peut raconter que des fictions.
Donc même un documentaire est une fiction pour vous ?
Mais bien entendu. Et on le voit récemment, il y a eu un grand débat autour de Staircase, le documentaire, le célèbre documentaire sur un crime. Et il a été adapté en série et à chaque fois, il y a une réadaptation. Hein. Si on regarde les documentaires de Netflix, de temps en temps, c'est même carrément de la fiction.
Alors vous, pourtant, on ne peut pas dire que dans votre livre que toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé serait pure coïncidence. Il y a une base réelle qui est très volontaire.
Il y a une base réelle, il y a une véritable recherche d'être au plus près du réel, d'être même hyper réel. Mais le côté non-fiction, voilà, je pense qu'il faut être un peu raison garder. Mais néanmoins, à un moment, je dis qu'il y a quelqu'un qui mange une glace à la noix de pécan, à un moment, il a un anorak jaune, tout ça est vrai.
C'est jusqu'au
moindre détail, parce que je pense que le réel, ce que je voulais, c'est un livre qui est hybride, où vous allez aller apprendre sur un véritable fait, et grâce à cette espèce de magie du roman, qui est une sorte de machine, le roman, une machine à déplier les sentiments, vous allez véritablement comprendre ce que justement peut-être un documentaire ne peut pas vous faire comprendre, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les cœurs.
On va en reparler après, mais jusqu'où vous êtes, comment on peut savoir ce qui est vrai ou pas vrai ? Ce qui est inventé, c'est ce que vous prêtez comme pensée, ce que vous prêtez comme idée au personnage ?
Ça dépend, parce que dans de nombreux cas, j'ai, que ce soit des interviews, parfois des journaux intimes, parfois des discussions avec eux, rien dans mon livre n'est gratuit. Je peux justifier chacune des idées, chacune des pensées. Néanmoins, je dirais, c'est une secte qui est la plus bizarre de tous les temps. Il n'y a aucune secte qui a atteint un tel niveau de bizarrerie, et moi, je travaille sur l'étrange depuis plus de 15 ans. Mmh. Tout ce qui est le plus dingue, à un moment, ils construisent un vaisseau spatial avec des pneus, à un moment, ils se mettent des cônes sur la tête, tout ce qui est le plus inexplicable, incroyable, est vrai. Et parfois, par contre, dans les sentiments, dans ces personnages qu'on peut découvrir, dont on va découvrir les destins brisés, là, par contre, j'ai romancé parce que je voulais raconter, au-delà du fait divers, un véritable roman, un roman noir, un thriller.
Et vous y réussissez parce qu'une fois qu'on l'a ouvert, on a beaucoup de mal à le refermer.
Merci.
Comment vous avez entendu parler de cette histoire la première fois ?
Eh bien, alors, comme je vous le disais, moi, j'écris sur l'étrange depuis plus de 15 ans et j'étais, comme à mon habitude, en train de surfer sur des sites louches, hein, parce que c'est mon passe-temps, c'est mon hobby, et je tombe sur le site officiel de la secte Evansgate. Vous l'avez compris, comme la secte s'est suicidée en mars 1997, c'est un petit peu bizarre, tous ses membres se sont suicidés. Donc comment leur site peut-être encore en ligne 20 ans après ? C'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il y a quelque chose d'incroyable, il y a quelque chose de pas normal, parce que le site, il était tel quel. Hein,
et il est dans toujours, j'ai été voir hier. Toujours, j'ai
vous
été
pouvez
voir hier,
y aller, evansgate.com. Vous ne serez pas, à mon avis, fliqué par les RG, parce que c'est presque un monument de l'histoire, des faits divers, un monument de l'histoire. Et ce qui est fou, c'est que je me suis dit... Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye la note, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est derrière. Un site, c'est comme l'eau, l'électricité, il faut payer. J'ai envoyé un mail, j'ai envoyé une bouteille à la mer, il y a quelqu'un qui m'a répondu, et c'est là que j'ai tiré le fil pendant des années pour aller à la rencontre de survivants, pour trouver des archives, des documents, aller sur place, pour vraiment recréer ce fait divers de la manière la plus vivante et la plus vraie possible.
Mais à quel moment on sait qu'on tient une bonne histoire ? Parce que bon, là, le site, j'imagine, il y a d'autres gens qui y sont allés. Ça ressemble un peu à une, pour les plus vieux, les gens de mon âge, ça ressemble un peu à une page Minitel. C'est un site de 97, hein, c'est un peu vieillot.
J'ai été sur le Minitel, c'est un peu mieux quand même. Je dirais que ça ressemble un peu à un Skyblog. Il y a le côté coloré, les arcs-en-ciel, les gifs animés. On replonge dans l'Internet des années 90.
C'est vrai que c'est presque une pièce de musée, rien que ça. Oui. Ouais. C'est quoi, c'est la personnalité des gourous, c'est des victimes qui vous intéressent?
Bah, c'est d'abord personnel.
C'est la secte qui va le plus loin dans le bizarre.
C'est d'abord personnel. Je dirais que j'ai eu une véritable obsession pour cette histoire parce que vous avez... Il y a plein de suicides collectifs. Le temple du peuple, tout le monde le connaît. 900 personnes assassinées, les résistants sont abattus, les enfants sont empoisonnés. C'est hyper violent. Et de l'autre côté, vous avez le temple solaire, où là, on soupçonne même... c'est des théories qui sont un peu complotistes, mais on soupçonne même qu'ils ont été tués au lance-flammes. Enfin, il y a plein d'histoires. Il y a eu des bébés aussi qui ont été tués. Non, là, Heaven's Gate, ils se sont
suicidés.
C'est
très propre, si je peux me permettre. Si on peut dire ça comme ça.
Exactement. Ils se sont suicidés. Dans le calme, il n'y a pas de violence. Ils ont même fait la vaisselle avant. Ils ont taillé les haies. Ils ont tout rangé. Tout est nickel. Et même leur corps, la scène dépasse l'entendement puisque c'est 39 corps, comme vous l'avez dit, dans une villa de luxe. Ils sont tous allongés sans le moindre... dans la même position. Ils ont posé leur affaire sur le côté. Ils sont en costume un peu à la Stargate. Et sur eux est posé une sorte de voile violet en losange. Et des voiles violets dépassent des Nike parfaitement neuves, identiques. C'est une scène... qui a eu un tel écho sur moi, après quand j'ai soulevé les voiles et découvert les visages, je voulais absolument résoudre cette énigme. Comment 39 personnes peuvent-elles commettre cet acte ? Et au-delà de l'énigme, quelle histoire ça raconte ? Et en quoi, quand on se plonge dans la peau des adeptes, on vit l'histoire à leur place et on vit une histoire qui n'a rien à voir avec les faits divers.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
C'est un extrait de Stargate, de Star Trek. C'est un joli mélange que je viens de faire. C'est pas par hasard, parce que une des choses qui est fascinante dans cette secte, c'est ce mélange de religiosité assez classique. Il y a un saint, il y a je sais plus, c'est Saint Paul, j'ai oublié. Non, c'est pas Saint Paul.
Non,
il y a
ça
la
rien.
Personnage, la gourou femme, elle est obsédée par un saint qui lui parle.
Non, c'est un moine.
C'est
en effet une secte qui est dirigée par un couple.
Et en même temps, il y a beaucoup de pop culture, et notamment Star Trek, dont on vient d'écouter un extrait du générique original. Et moi, c'est ce mélange-là qui me fascinait, c'est ce syncrétisme absolu de tout. C'est ça qui vous a aussi peut-être un peu... c'est un peu amusant, si ça n'avait pas fini tragiquement. Que ça commence par être grotesque et ça finit dans le tragique.
Exactement, et... Il faut savoir, par exemple, que lorsqu'ils se sont suicidés, ils ont fait des vidéos pour expliquer pourquoi ils allaient le faire. Pourquoi ils allaient le faire, c'était pour partir dans l'espace. Et il y a une des 39 qui regarde la caméra et qui dit « 39 to beam up ». Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de Star Trek qui nous écoutent, mais « 39 to beam up », ça veut dire « 39 à télétransporter ». C'est une phrase typique de Star Trek. Le gourou disait même « Si vous croyez en Star Trek, c'est la meilleure base religieuse possible pour nous rejoindre ». Pour eux, si vous voulez, la science-fiction, c'est vraiment une théologie. La science-fiction, c'est qu'une interprétation des thèmes religieux et des thèmes de prospective. Donc finalement, la science-fiction, et ça, la contre-culture américaine le pensait aussi, Timothy Leary le pensait aussi, la science-fiction est une manière d'écrire le destin de l'homme. Que ce soit Star Trek, X-Files, et même après Star Trek, ça les a un peu Stargate, ça les a un petit peu titillés, figurez-vous, ça les a intéressés, parce qu'il y a des, il y a des symbiotes, il y a des trucs comme ça, et voilà. La science-fiction, ce n'est pas la seule secte qui s'y est intéressée. Il y a la scientologie, bien entendu, et tout un tas d'autres.
Mais justement, est-ce qu'on peut dire que ces sectes, c'est la version complètement pervertie de la contre-culture américaine? Parce que c'est l'impression que ça donne dans votre livre. Et on va parler après du personnage de Barthélemy, qui est un peu le narrateur, ou en tout cas le conducteur. D'ailleurs, il existe vraiment, ce Barthélemy, ou vous l'avez inventé?
Il existe, oui. Non, je n'ai pas inventé de personnage.
Non, mais ça aurait été drôle que vous l'inventiez. Mmh. Il existe vraiment tel... Ben, c'est encore plus dingue qu'il existe vraiment.
Ben après, il est romancé. Mais en effet, c'est basé sur une personne réelle.
Et lui, on voit très bien comment il fait le passage entre la contre-culture. En gros, c'est quelqu'un qui a du mal à s'adapter au monde américain des années 60-70. Et il fonce dans cette secte. Et tous les symboles, toutes les croyances, comment elles sont inversées, perverties. Bon, pour moi, elles sont vraiment perverties.
Je dirais que les sectes sont systématiquement un miroir obscur, un côté obscur de nos sociétés. C'est pour ça que je les trouve passionnantes, c'est parce qu'on peut les mettre au banc. On a parlé d'histoire tout à l'heure, on disait que ce site internet était une pièce d'histoire. Moi, je pense que les sectes doivent être étudiées parce qu'elles nous en apprennent énormément sur nos sociétés et sur nous-mêmes. Quand vous regardez Evansgate, vous avez la contre-culture de l'époque, dans une version, je dirais, obscure, peut-être pas perverse, parce que bon, après on peut en discuter, mais c'est aussi, ce qui est fascinant, c'est que ça annonce l'avenir. C'est quand même une secte qui a décidé de supprimer toute trace de genre, hein. C'est une version cauchemardesque des questionnements qu'on se pose aujourd'hui, puisque eux, ils sont allés jusqu'à la castration, hein, pour ne plus être ni homme ni femme. Ils ont pensé plein de trucs, ils ont aussi décidé de devenir des cyborgs.
Une passion pour la technique aussi.
Une passion pour la technologie, c'est la première secte à avoir recruté sur Internet. Donc je dirais que c'est un côté obscur de la contre-culture, de la cyberculture et de notre époque.
Mais aussi, alors là, on trouve Là encore, des échos très étonnants avec, je ne sais pas si vous vous intéressez aussi à ça, avec la culture aujourd'hui, la Silicon Valley.
Oui, enfin, tout à fait.
Quand on pense au transhumanisme, il y a des moments, on dit que tout ça, il y a des liens.
Mais c'est,
tous
ces gens-là, c'est une secte transhumaniste, tout à fait. Oui.
Il y a des bouillons, il y a un bouillonnement très bizarre. Je reviens à ce que vous dites, à votre livre plutôt, à un moment, et j'ai l'impression que vous avez envie aussi de réhabiliter les gens qui vont dans ces sectes, qu'on juge très souvent, soit comme des benets, soit comme des gens pas très malins, soit comme des gens aliénés qui se font avoir. Vous, j'ai l'impression que vous aviez vraiment envie de leur redonner une dignité.
Exactement, j'avais envie de leur redonner une dignité pour deux raisons. D'abord parce que je pense véritablement que c'est dans cette forme d'empathie-là que le roman existe. C'est dans une empathie qui est radicale. C'est une empathie qui ne tolère absolument pas de jugement extérieur. C'est une plongée. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est que vous vivez comme si vous étiez ses adeptes. Donc vous allez vivre, par exemple, des expériences mystiques, parce qu'on peut se moquer d'eux. Mais une des raisons pour laquelle les gens croient, c'est parce que parfois, ils voient. Hein. Là, on pourrait parler de Saint Thomas. Mmh. Donc, essayer de comprendre ce qu'ils vivent, c'est un premier pas, je pense, pour grandir. Ce point de ressemblance entre eux et nous, c'est quelque chose qui est troublant, mais qu'on doit comprendre. Et c'est le deuxième point, c'est que je pense que cette espèce de mépris où on se dit « ça ne peut pas m'arriver, je ne suis pas comme eux, ils sont idiots », c'est justement, exactement, parfois, ce que pensent les gens qui rejoignent les sectes. Parce qu'ils sont persuadés que eux, ça ne leur arrivera jamais, jamais, ils sont rationnels, ils ne sont pas comme Barthélemy. Mais bien sûr que si, nous avons tous en nous, on va dire, une faiblesse, il y a une ouverture dans notre esprit, dans notre cœur, qui peut être un danger. Et je pense que c'est en s'ouvrant à ça, en nous s'ouvrant à ce risque-là, qu'on peut comprendre beaucoup plus de choses sur l'âme humaine qu'en se croyant ainsi supérieur à des gens qui, en effet, sombrent dans des histoires qui sont tragiques.
Alors, je ne sais pas si c'est la puissance du roman, mais moi, en vous lisant, ce qui m'a là encore frappé, c'est quelque chose auquel je n'avais jamais pensé, c'est que ce à quoi ils m'ont surtout fait penser, c'est à des gens qui sont victimes d'addiction, tous vos croyants. Vraiment, j'y avais jamais pensé avant. Et je trouve que la manière dont ils adhèrent à la croyance, il faut bien qu'ils ont comme un produit auquel ils peuvent pas s'empêcher. Quoi. Finalement, ils sont comme shootés.
Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est une société shootée.
Allez-y, oui. Ouais. Et je veux dire, bien sûr, addiction au sens fort. Hein. C'est pas je suis addict au chocolat parce qu'on a mangé deux petits carottes au chocolat. Mais vraiment, les vrais addicts, les alcooliques, les gens qui prennent des drogues, ressemblent beaucoup à ça.
J'en connais des addicts au chocolat sévères, hein. Attention. Hein. Mais c'est exactement ça. Cet aspect addiction, on le retrouve énormément dans notre société avec la dépendance à la dopamine, les shoots, Facebook. Et on se dit, bon, voilà, justement, ils ne sont pas comme nous. Mais c'est exactement pareil, la secte. Quand on commence, on rentre dans une secte qui se passe, c'est le love bombing. On vous dit, vous êtes extraordinaire.
C'est vrai.
Vous êtes fabuleux. Venez dans notre communauté. On vit dans une société horrible. On vit dans une société horrible. Les gens sont seuls. Venez avec nous. Vous serez dans une communauté. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous le méritez. Et là, dans le temple solaire, notamment, quand les gens avaient ce shoot de dopamine, Jody Mambro, le chef de la secte, leur disait même qu'ils étaient la réincarnation de quelqu'un. Donc, il y a une grande cérémonie. Bidule, en fait, tu es la réincarnation de César et tu deviens numéro 2 de la secte. Une fois que le shoot de dopamine est fait, qu'est-ce qu'il faisait Jody Mambro? Et c'est pareil pour Heaven's Gate. Bon, maintenant que tu es numéro 2 de la secte, je vais te confier une tâche très importante. Tu vois ce tas de patates, tu vas l'éplucher. Et donc, je caricature bien entendu. Là, la personne a besoin de retrouver ce shoot extraordinaire, d'avoir trouvé sa place dans la vie, d'avoir trouvé quelque chose d'extraordinaire. L'autre point sur l'addict, c'est le biais de coût irrécupérable. Une fois que vous vous êtes investi, ouais, vous êtes comme un parieur. C'est du Dostoïevski, c'est le joueur. Il a trop parié, il ne peut plus sortir, sinon il a tout perdu. Quelqu'un qui a investi 20 ans de sa vie dans l'idée qu'un tel est un dieu, qu'il a trouvé la vérité, s'il sort... C'est tout son être, c'est parce que c'est quelque
c'est
chose de...
C'est qui s'effondre, je pense. Là,
c'est ouais. tout son être qui s'effondre, et c'est ce que ouais. voient beaucoup les gens qui luttent, qui luttent contre les sectes et qui accompagnent les familles, toutes les associations. Et ben, ils se rendent compte que quand on sort quelqu'un d'une secte, c'est extrêmement compliqué parce que cette personne peut s'effondrer, et ce qu'il faut, c'est avant tout qu'elle se reconstruise. Et ça, c'est très compliqué.
Il faudrait quand même qu'on dise un mot des deux fondateurs de la secte, c'est un homme et une femme. On a vraiment l'impression que s'ils ne s'étaient jamais rencontrés, ça serait peut-être rien passé. Il y a vraiment une alchimie entre eux qui se produit.
Bah c'est malheureux parce que quelque part,
c'est la preuve d'ailleurs. Pardon, j'arrête pas de vous couper la parole. C'est la preuve qu'une histoire d'amour, ça peut être quelque chose de terrible.
C'est une folie à deux. C'est une folie à deux. C'est une histoire d'amour extraordinaire. C'est Bonnie and Clyde, mais version du coup Bonnie parce qu'elle s'appelle vraiment Bonnie et Marshall. Et ce qui est terrible, c'est que bon, faut le découvrir dans le livre. Je raconterai pas forcément les détails, mais ce qui est extraordinaire, c'est de se dire que avant si Marshall n'avait pas rencontré Bonnie, peut-être qu'il n'aurait pas du tout été dans tout cela. Peut-être que finalement, c'est la pire chose qui lui est arrivée parce que cette folie à deux a fait que tous ces doutes, toutes ces idées sont devenues des certitudes. Et c'est la pire chose qui peut vous arriver. Mettons que vous ayez une idée folle au fond de vous et que quelqu'un arrive, vous aime et vous dise que vous avez raison. C'est une sorte de drame amoureux et qui extrêmement... vous me demandiez pourquoi cette histoire m'avait interpellé, parce que c'est une histoire d'amour, c'est une secte qui commence par une histoire d'amour.
Ça, c'est un des points les plus fascinants parce que souvent, on imagine le gourou seul. Là, il y a un couple de gourous avec une répartition des rôles qui n'est pas très claire. En plus, ils ne sont pas très bons parce qu'il y a une histoire avec un moment avec du maquillage, ils peuvent faire des erreurs. On ne va pas trop en raconter. C'est pour ça que le livre est passionnant. Quand même, juste d'un mot, vous pourriez expliquer leurs croyances aux gens qui nous écoutent quand on croit à Heaven's Gate, à croire. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Alors, pour résumer, c'est l'idée que vous devez cesser d'être des humains. C'est ça qui m'a intéressé. Vous devez cesser d'être des humains parce que l'humanité, en fait, est une sorte d'illusion. Si vous arrivez à ne plus être un humain, à ne plus ressentir d'émotions, à vous détacher de votre corps, à vous détacher de votre sexe, à vous détacher de vos pensées, à devenir une machine, alors vous pourrez quitter ce monde d'illusions et partir dans l'espace, parce que dans l'espace, il y a vraiment les dieux qui n'attendent que qu'il y ait des élus qui les rejoignent. Et c'est ça qui est stupéfiant, et c'est pour ça qu'au-delà du fait divers, ce roman raconte quelque chose de profondément humain, c'est que c'est des gens qui partent pour s'épanouir, pour exister, pour faire la chose la plus importante de leur vie, et on leur dit, pour que tu t'épanouisses, il faut que tu te détruises. Comment on fait ça? Et ben, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont plein de travaux pratiques et que ça leur prend 25 ans de leur vie.
Et d'ailleurs, le corps est appelé le véhicule. Hein.
Exactement.
Il y a un moment... Il y a un moment quand même, vous mettez un peu d'ironie dans votre texte, c'est parce que vous en aviez besoin pour respirer, pour faire respirer les lecteurs. Je crois qu'il y a un moment où sur le véhicule, justement, vous faites une blague sur ça. En parlant d'un bébé, où vous dites c'est un beau véhicule.
Ah oui, c'est possible.
Il y a des choses comme ça. Mais ça, justement, cette ironie, vous l'avez mise volontairement dans l'écriture ?
Eh bien, c'est une question, j'allais dire, de centimètres, parce que je voulais en tout cas qu'on garde une neutralité. Cette empathie qui est mon approche, je veux qu'elle s'accompagne d'une neutralité. C'est ce que j'ai toujours fait quand j'ai traité les choses étranges. Je ne veux pas d'ironie mordante, je ne suis pas là pour me moquer. Simplement, l'ironie, elle est là en complément de l'émotion pour que justement, cette immersion, on garde la bonne distance avec le sujet et qu'on continue de pouvoir le regarder. Alors, quand les gens sont trop dedans, je mets un peu d'ironie.
Vous, non ? On a presque l'impression que vous en avez besoin pour respirer quand vous écrivez le livre, à force d'être dans l'horreur, non ?
Bah, Peut-être, mais vous savez, oui, je pense que c'est ma nature parce que je... Et d'ailleurs, moi, cet humour-là, quand je traite de choses étranges, ces blagues, je les fais avec les gens. Je ne les fais pas que sur les gens. Et quand, généralement, j'ai écrit des articles sur des gens très bizarres, parce que j'en écris plein, ils n'ont pas découvert mes blagues en découvrant l'article. J'ai ri avec eux. Parce que parfois, ce sont des excentriques. Ils le savent très bien. Et il y a un truc que j'ai découvert. Tout n'est pas dans le livre. J'ai découvert que Evans-Gay disait, par exemple, si vous voulez rencontrer Dieu, si vous voulez nous rejoindre, il vous faut un sac de couchage, beaucoup de courage et votre sens de l'humour. Ils avaient beaucoup d'humour. La première fois que j'ai discuté avec un membre de la secte, son mail était signé « Que la force soit avec vous ». Ils sont un peu frappés, mais complètement, complètement marrants.
C'est le moment où je me perds dans mes notes. C'est un extrait de la Fresh List de Radio Campus Paris. Le chanteur s'appelle Monet Ngo. Je ne sais pas très bien prononcer. Monet Ngo. Et le titre, c'est Lone Star.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et on est toujours avec Quentin Bruet-Ferréal, qui est l'auteur de Dieu est un voleur qui marche dans la nuit aux éditions Bouquin. D'où vient ce très beau titre, Dieu est un voleur qui marche dans la nuit ?
Ce très beau titre, merci beaucoup. Il vient d'une anecdote. En fait, le gourou a eu un premier adepte. Et à cet adepte-là, il a raconté que, en fait, il volait. Il volait.
Volait au sens dérobé.
Il dérobait. Il volait dans des buffets. Il payait pas son hôtel. Et il a prétendu auprès de cette première adepte que dans la Bible, il était écrit Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. C'est vraiment le gourou qui a dit ça. Ce premier adepte a vérifié. C'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. Et à partir de là, ils ont perdu leur adepte. Il se passe un tas de choses. Et ce que j'aimais dans ce titre, c'est qu'au-delà de l'aspect anecdote, c'est exactement ce que je raconte. C'est-à-dire que on a beau penser qu'on est à l'abri du besoin de croire, peut-être qu'on peut y échapper, on y retombe forcément parce qu'il y a toujours un Dieu qui rôde.
Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais la semaine dernière, le Congrès des États-Unis a organisé une audition sur les ovnis. Et en entendant ça, je me suis dit, mais ils sont donc prêts à repartir?
Vous voulez dire les adeptes ou les ovnis?
Je ne sais pas tout, parce qu'on se dit que finalement, il y a encore ces croyances. Et là, c'est le Congrès des... Alors, c'est une sous-commission, mais
alors,
il n'empêche.
Je vais vous faire une révélation. Les ovnis existent. Ça, ce n'est pas une croyance étrange. Les ovnis existent, c'est prouvé, parce qu'un ovni, c'est un objet non identifié. Des objets non identifiés, il y en a plein. La question, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc après, le pas de dire que c'est des gens venus d'outre-espace pour aller nous mettre des sondes anales ou je ne sais quoi, là, c'est plus délicat.
D'accord. Vous avez fondé le site triangle.fr, un site internet qui se présente comme un cabinet de curiosité spécialisé dans les objets sectaires et ésotériques. Est-ce que vous avez trop regardé X-Files quand vous étiez enfant? Vous pensez que la vérité est ailleurs?
Alors, j'ai trop regardé X-Files, je pense que la vérité est ailleurs, je pense que le mystère est la dernière subversion aujourd'hui. Je suis obsédé par cette idée d'aller en quête des coins obscurs, parce que finalement, c'est là où notre imagination vit et survit. Et je pense que cet imaginaire, il peut être étouffé par la technique, par la modernité, par le calcul, par les mathématiques, par la finance. Et du coup, je cherche l'irréel, je cherche la folie, je cherche tout ce qui est non euclidien. Et c'est pour ça que mon travail romanesque, qui consiste absolument pas à apporter des réponses, mais à troubler avec des questions. Je veux que quand on lit, on se perde. Et c'est ce que j'aime, en tout cas. Moi, c'est ce que j'aime quand je lis.
Et ce site Triangle, alors, vous arrivez à l'alimenter régulièrement? Il y a beaucoup d'histoires?
Eh bien, il y a plein d'histoires. Je vous avoue que je suis parti vers les cieux du roman et que ça me plaît davantage. J'aime bien écrire des articles, j'aime bien écrire des articles narratifs. Mais l'idée du triangle, c'était de poser les questions qu'on ne se pose pas. Et c'était vraiment l'idée de trouver dans la modernité des coins d'obscurité. J'ai trouvé des alchimistes sur Facebook. J'ai trouvé des gens qui croyaient en Satan, qui croyaient dans les Illuminati et qui pensaient que c'était moi. Enfin, je vous conseille d'aller voir. J'ai fait plein d'expériences sur toute cette naissance d'Internet, parce que ça a 15 ans quand même, ce site. Donc pendant 15 ans, j'ai alimenté en cherchant tout ce qu'on pouvait collectionner d'étrange. Les sectes n'en sont qu'une partie. Internet, si vous voulez, c'est l'inconscient collectif qui explose, qui devient explicite. Tous nos coins obscurs, maintenant, sont révélés. Et notre confessionnal, bah, c'est Google. Tout le monde s'est confessé à Google. Et moi, je suis allé écouter les confessions.
Je trouve ça toujours génial. Moi, c'est le mélange d'archaïsme, de pulsions archaïques.
Exactement.
Et d'hypermodernité d'Internet.
On sombre dans un chamanisme aujourd'hui par la technologie,
très
bien
étonnant.
Entendu.
Un dernier mot pour finir, vous avez produit et réalisé un documentaire, Extasium, la porte du paradis. On peut le voir où? Vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste?
Extasium, la porte du paradis, c'est un documentaire qui raconte ma rencontre avec Alain Gabriel, qui est un artiste un peu comme le facteur cheval que j'ai découvert et qui a fabriqué une machine pendant 40 ans qui est une machine à rencontrer Dieu. C'est un artiste, peut-être un prophète, je ne sais pas. C'est au spectateur d'en décider. Je l'ai suivi pendant 2 ans et sa machine, elle est assez formidable.
Est-ce que vous l'avez testée, la machine ?
Je vais la tester bientôt, figurez-vous.
Ah,
en tout cas,
j'ai
assisté à des séances où lui entre dans des séances qu'il appelle de relaxation intensive et où il dit que justement, il rentre en contact avec ce qu'il pense être Dieu, un Dieu géométrique, une sorte de géométrie sacrée. C'est vraiment très étrange parce qu'il a beau avoir travaillé pendant 40 ans, personne ne le connaît. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a construit cette machine qui fait la taille d'une pièce, des milliers d'électrodes, de la peinture, mais elle est tellement grande qu'il ne peut plus la bouger. Or, il n'est que locataire de son appartement et son propriétaire essaie de le virer depuis près de 10 ans.
Et on voit où le documentaire
Le 12 juin. Au Grand Rex, lors du Festival du Fantasme. Vous pouvez aller sur Internet et réserver vos places dès aujourd'hui. C'est dans la sélection documentaire du Festival du Fantasme.
Vous avez d'autres activités à côté de ça? Roman, documentaire?
Roman, et puis je suis consultant en communication, mais ça n'a rien à voir.
Peut-être, allez savoir. Merci beaucoup Quentin Bruet-Ferréal. Je rappelle que
Merci
vous êtes
à vous.
L'auteur de Dieu est un voleur qui marche dans la nuit. Les auditeurs qui ont une mémoire auditive vous se rappelleront peut-être qu'ils vous ont donc entendu sur cette radio.
Il y a 10 ans, dans l'émission de Street Press.
Eh bien écoutez, formidable. Voilà, c'était La Relève. Elle était présentée par Christophe ce soir. La réalisation était assurée par Jonathan. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes sur le web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. À très bientôt. J'espère qu'on sera là la semaine prochaine. Bonne soirée.